Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous, bonsoir Nathalie, bonsoir Théo, j'espère que vous allez bien. Voilà, tu peux pas parler, donc ça va être compliqué après pour la suite. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vous propose la soupe à l'oignon. On fait ça souvent dans les mariages, oui, hein, et cérémonies. Donc, on va découvrir comment la faire et puis son histoire un petit peu. On va aussi préparer les tomates farcies. Et puis, pour finir, on finira par une panna cotta assez crémeuse, assez sympa à manger. Et puis, écoutez, pour tout ça, je vais déjà vous dire un petit peu les ingrédients et le matériel. Alors, vous avez, au fur et à mesure, on vous a dit il y a quelques semaines, que nous changions un petit peu notre émission de façon à ce que vous pouviez les retrouver dans les postes.
Podcast.
Merci Nat, c'est un mot que j'arriverai jamais à dire, je pense. Vous allez voir que au fur et à mesure, j'ai un peu changé le menu, si je peux me permettre, le menu de l'émission. Donc, dans un premier temps, je vous mets tout sur la première partie de l'émission, je vous mets tous les ingrédients et les matériels, et matériaux, c'est mieux. Et puis après, par la suite, quand je reviens sur les recettes, je vous redonne les ingrédients et le matériel. Comme ça, ça va vous permettre d'avoir exactement les ingrédients et le matériel à utiliser pour la recette. Voilà, comme ça, c'est plus facile pour vous. Et puis, et un peu plus de travail pour moi, mais c'est pas grave. Voilà, alors... Pour les recettes, aujourd'hui, donc la soupe à l'oignon, il nous faudra 4 oignons, 50 g de beurre, 500 ml d'eau, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de farine, 25 cl de vin blanc, 1 litre d'eau, des rondelles, alors des rondelles de pain rassis, hein, donc ça
des
c'est
petites tranches de pain,
oui, des petites tranches de pain rassis, moi j'aime bien en rondelles, voilà, après vous pouvez faire, oui, c'est des petits croutons. Il nous faudra aussi 100 g de comté râpé et du sel et du poivre, bien évidemment. Pour le matériel, il nous faudra un couteau, un faitout avec couvercle et 4 bols allant au four. Alors moi, j'ai fait pour 4, mais vous rajoutez pour 6. Hein, donc, au fur et à mesure, je ferai aussi des recettes que pour 6. Voilà, comme ça, on n'aura pas à se calculer combien. Et puis, pour les tomates farcies, on aura besoin de 6 grosses tomates. Si vous ne trouvez pas, parce que on est vraiment en fin de saison, eh ben, vous prendrez 12 petites. Et puis, 4 oignons, 3 gousses d'ail, du thym, du persil, du beurre, poivre, sel, bien évidemment, et 500 g de chair à saucisse. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un couteau, d'un plat à gratin et d'un saladier. Côté de la panna cotta, il vous faudra 15 cl de lait, 45 g de sucre, une cuillère à café de vanille liquide ou de l'extrait de vanille, ou un sachet de sucre vanillé aussi, si vous voulez. Et 4 à 5 feuilles de gélatine alimentaire ou de l'agar agar. Moi, je ne travaille pas avec l'agar agar parce que je ne connais pas trop, mais je sais que ça se fait avec aussi. Et 45 centilitres de crème fraîche liquide. Pour le matériel, il vous faudra un saladier, une cuillère en bois, une casserole, 6 ramequins. Peu importe, hein, que ce soit, puisque ça passe, il n'y a pas de four, donc même si c'est des petits ramequins en plastique, ça peut être sympa aussi, si vous en avez de jolis, et puis un fouet. Voilà pour nos ingrédients et notre matériel. Nous allons commencer donc par la soupe d'oignon. Pour cette recette, vous avez besoin de 4 oignons. Donc 50 g de beurre, 500 ml d'eau, une cuillère à café, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de farine, 25 cl de vin, 1 litre d'eau, des rondelles de pain rassis. Si le pain il est frais, c'est bon aussi, hein, puisque vous le ferez griller à un moment donné. 100 g de comté râpé, du sel et du poivre, et côté matériel, un couteau, un faitout avec couvercle et 4 bols allant au four. Pour la préparation, vous aurez besoin de 25 minutes environ de préparation et il y aura 20 minutes de cuisson. Donc vous voyez, en une demi-heure, on peut avoir fait une soupe, une soupe d'oignons. Avant de commencer, Nathalie, peux-tu nous dire un petit peu l'origine de cette soupe ?
Alors, les soupes à l'oignon sont populaires au moins depuis l'époque romaine. Elles furent, à travers l'histoire, souvent considérées comme une nourriture pour les gens modestes, en raison de l'abondance des oignons et de la facilité à les cultiver. Donc c'est vraiment une... c'est pour cet hiver. Hein. La version moderne de cette soupe est venue de France au XVIIe siècle, faite de pain sec ou croûtons, bouillon de bœuf et oignons caramélisés. Alors la légende prétend que la soupe fut inventée par le roi Louis XV. Tard dans la nuit, alors qu'il se trouvait dans sa loge de chasse, n'est-ce pas, il découvrit qu'il n'avait comme provision que des oignons, du beurre et du champagne. Il cuisina les trois ingrédients et en fit la première soupe à l'oignon française, au champagne quand même. D'autres histoires attribuent la paternité de cette spécialité au roi Louis XIV. Nicolas Appert, l'inventeur de la conserve apertisée, était avant tout un cuisinier et un confiseur, et s'il apprit la cuisine chez son père à l'hôtel du Palais Royal, il fit aussi son apprentissage dans les meilleurs établissements de sa ville natale, Châlons-en-Champagne, et en particulier l'hôtel de la Pomme d'Or. C'est dans cette auberge que descendait chaque année Stanislas Leszczynski, je pense que c'est ça, duc de Lorraine et ex-roi de Pologne, sur les routes de Versailles pour aller visiter sa fille, la reine Marie, épouse de Louis XV. Un soir, on lui servit une soupe à l'oignon qu'il trouva si délicate et si soignée qu'il ne voulut pas continuer sa route sans avoir appris à en préparer lui-même une semblable, enveloppée dans sa robe de chambre. Sa Majesté descendit à la cuisine et voulut absolument que le chef opérât sous ses yeux. Ni la fumée, ni l'odeur d'oignon qui lui arrachait de grosses larmes ne purent distraire son attention. Elle observa tout, en prit note et ne remonta en voiture qu'après être certaine de posséder l'art de faire une excellente soupe à l'oignon. Nicolas Appert, de nouveau, lui dédia cette soupe, lui donnant le nom de soupe à l'oignon à la Stanislas. L'histoire ne dit pas si une fois à Versailles, Stanislas prépara cette soupe à son gendre, le roi de France. Par contre, une fois à la cour, la renommée de la soupe à l'oignon se fit, tout en prenant un tout autre sens qu'uniquement celui de mets. Sa capacité à voiler les senteurs de vin et alcool, non d'un verre ou deux, mais d'une consommation marquée, la réputation de la soupe à l'oignon devint alors celle de la soupe des ivrognes, c'est pour ça que c'est après un mariage. Cette réputation l'a fait entrer dans les mœurs, principalement des moyennes et petites gens, qui pouvaient ainsi, aux occasions de beuverie, s'offrir et consommer un plat de la noblesse, non à titre de bouche, mais pour occulter les relents de vin.
Voilà. Moi, je trouve ça excellent quand même. Bon, alors, je tiens quand même à signaler, merci Nathalie,
de
tout ce savoir, c'est extraordinaire. Je tiens à signaler quand même que, évidemment, on va mettre du vin dans cette soupe, mais il faut savoir que comme ça va cuire, ça va bouillir pendant 20 minutes, cette soupe, l'alcool va s'évaporer. Hein, donc je rassure les parents qui disent non, mange pas, parce que bon, il y a qu'un quart de litre dedans, donc faut pas exagérer non plus. Il y a 20 minutes de cuisson, donc automatiquement ça va s'évaporer. Bien, donc on commence par cette soupe à l'oignon. Alors attention, sortez les mouchoirs parce que vous allez peler, donc enlever la première couche de l'oignon et les émincer. Donc ça, c'est la partie la plus joyeuse de une autre recette parce que bah, les oignons, alors on dit il y a un truc, faut les mettre sous l'eau pour les éplucher. Moi j'ai essayé dans un plastique, sous l'eau, j'ai essayé tout. À chaque fois je pleure comme une madeleine. Ça, c'est infaillible.
Il y a plein d'astuces dans les différentes familles, mais...
Franchement, j'en ai essayé quatre ou cinq, je pense. j'ai toujours pleuré. Donc, j'ai arrêté, ben, je pleure un bon coup et puis terminé. Voilà. Donc, une fois que vous avez épluché et émincé vos oignons, essuyez votre nez et vos yeux, vous allez les faire revenir dans un mélange de beurre et d'huile. Alors, pourquoi on met du beurre et de l'huile ? Parce que on va avoir ce parfum au niveau du beurre et on va avoir aussi l'huile qui va éviter de cramer le beurre. Donc, ça va rissoler tranquillement. Et puis, donc, il faut que ce soit coloré, légèrement coloré, et que les oignons soient un peu translucides, un petit peu tendres. Une fois que bah, c'est coloré, donc un peu doré, et puis les oignons sont tendres, vous allez saupoudrer le mélange d'oignons avec la farine. Et vous allez gentiment faire roussir l'oignon et la farine de façon à ce que ça fasse un petit roux. Vous allez voir, ça prend des couleurs un petit peu rousses. Nous allons rajouter de l'eau chaude et puis du vin blanc et puis donc vous rajoutez de l'eau chaude, alors l'eau chaude hein, à la bouilloire, donc c'est 1 litre et le vin blanc, donc 25 centilitres de vin blanc et puis vous allez saler et poivrer. Et maintenant vous allez couvrir et laisser bouillonner. Et on laisse bouillonner doucement de façon à ce que ça puisse pas cramer au fond du faitout. Donc, quand ça bouillonne plein feu, vous baissez votre feu et puis pendant 20 minutes à feu doux, vous laissez bouillonner. Pendant ce temps-là, bah, vous allez faire griller vos rondelles de pain, vos pains, de façon à pouvoir les mettre dans les bols. Alors, comment on passe au dressage ? Donc, on va disposer déjà chaque tranche, une ou deux tranches au fond du bol de service. Et et vous allez... Alors, les bols, il faut qu'ils soient... attention, il faut qu'ils puissent passer au four. Donc pour cela, choisissez des bols on en a ou des soupières. Voilà, des petites soupières, ça existe, ou des petites cocottes, ça peut être sympa. Donc vous mettez une rondelle de pain au fond de votre soupière ou de votre bol. Vous saupoudrez de fromage râpé. Donc voilà, moi j'ai choisi du comté parce que ça a un petit peu de goût et c'est assez agréable. Et puis vous versez la soupe chaude, donc au bout de 20 minutes, hein, on n'a pas besoin de mixer cette soupe aux oignons. Donc au bout de 20 minutes, quand votre soupe est prête, ben, vous la versez par-dessus les croutons et le fromage râpé. Vous remettez par-dessus la soupe du fromage et puis vous allez gratiner au grill environ 5 à 10 minutes. Et vous allez servir très chaud cette soupe. Donc attention à la sortie du four au moment de servir, hein, parce que vous pouvez vous brûler. Voilà, vous voyez, moi je sens déjà la bonne odeur dans la cuisine. Et on a encore fait une entrée facile à préparer. Alors, ça peut être une entrée, mais ça peut être, comme c'est assez copieux, hein, puisque le pain, vous avez du pain, de l'oignon et du fromage, eh ben, vous pouvez vous en servir comme plat au soir. Voilà. Ben, écoutez, on se retrouve tout de suite après cette pause musicale pour une nouvelle recette. À tout de suite.
Parc Babyland à Miland, 34 attractions. La nouveauté 2022, une expérience unique. Bonjour professeur.
Ici le professeur W. Je vous invite à monter à bord de ma nouvelle création, le Pteranodon.
Le professeur W, créateur de dinosaures, vous invite dans son laboratoire pour découvrir sa toute nouvelle invention. Une attraction familiale vous permettant de vous envoler à plus de 30 mètres de haut, tel un véritable ptérodactyle.
Parcbabyland.fr.
Le royaume des enfants et de la famille.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici pour une nouvelle recette. Donc, je vous propose des tomates farcies. Pour cela, vous aurez besoin de 6 grosses tomates ou 12 petites, 4 oignons, 3 gousses d'ail, du thym, du persil, du beurre, du sel et du poivre, bien évidemment, 500 g de chair à saucisse. Et puis, en côté matériel, on aura besoin d'un couteau, d'un plat à gratin, d'un saladier et d'une cuillère à café. Alors, pour la préparation, vous aurez besoin, donc, il y aura 20 minutes de préparation, grosso modo. Hein. Par contre, il y a une heure de cuisson, donc il faut vraiment prévoir votre coup derrière. Donc là, on va commencer comme tout à l'heure, sortir les mouchoirs parce qu'on va réplucher de l'oignon et puis le hacher. Par contre, cette fois-ci, donc si vous avez un mixeur, c'est encore mieux. Sinon, vous le hachez au couteau et alors là, c'est encore pire. C'est plus les mouchoirs, c'est carrément les draps. Donc, vous épluchez donc les oignons et puis les gousses d'ail et vous les émincez ou les hachez ensemble. Et puis, dans un saladier, vous allez mettre la moitié des oignons dans la chair à saucisse. Donc, vous mettez dans le saladier la chair à saucisse, la moitié des oignons. Vous y ajoutez l'ail complètement, le sel, le poivre et puis un petit peu de persil. Donc, il faut que ce soit un petit peu coloré. Donc, vous mettez 4-5 poignées, hein. Moi je mets ça au pifomètre, voilà, il faut que ça soit goûteux et puis qu'il y en ait et que ça soit savoureux. Et puis il faut que votre farce soit homogène, donc vous allez la mélanger avec les ingrédients, je viens de vous dire, les oignons, le persil, l'ail, le sel et le poivre, et vous la mélangez avec vos mains. Vous prenez pas la tête, les mains sont propres, normalement, quand on fait la cuisine, elles sont propres. Sinon, vous le mélangez avec une fourchette, c'est aussi bien aussi. Ensuite, on va passer à couper le haut des tomates. Donc, alors, il y en a qui coupent le haut, c'est-à-dire là où se trouve la queue. Moi, j'aime bien couper par le bas. Parce que dans ces cas-là, je retourne et le bas, en fin de compte, le haut me fait le bas et c'est plus stable. D'accord. Voilà, c'est juste une petite astuce pour que vos tomates ne roulent pas dans votre plat. Voilà, donc moi je coupe le bas de la tomate et puis je vais l'évider donc avec une cuillère à café. Alors vous faites attention à ne pas trop gratter au niveau de la peau et de façon à pas percer la peau parce que sinon la viande va s'en aller par ce bout-là. Une fois que vous avez évidé, vous gardez la pulpe de la tomate et puis vous allez saler et poivrer l'intérieur de vos tomates. Donc juste un petit peu de sel, un petit peu de poivre à l'intérieur. Et puis, vous allez mettre la fameuse farce que vous avez préparée, vous allez la mettre à l'intérieur et remettre les chapeaux. Voilà, c'est tout simple. Et puis, vous allez me dire, ouais, mais le reste d'oignons et le reste de chair à tomate. Eh bien, c'est simple. Vous allez prendre votre plat à gratin et le reste des oignons et de la chair à tomate, vous le mettez dans le fond de votre plat à gratin et vous allez mettre par-dessus vos tomates farcies dans le plat. Vous parsemez avant de mettre au four un petit peu de thym. Vous mettez une noisette de beurre sur chaque tomate et vous enfournez dans un four chaud à 180 degrés. Donc je vous rappelle, le thermostat, c'est 6 et pendant une heure. Et alors, moi j'aime bien mettre le riz au fond, parce que comme on a du jus, donc la chair à tomate plus un petit peu d'oignon, moi j'aime bien mettre mon riz à l'intérieur du plat et je mets mes tomates par-dessus. Comme ça va cuire, ça va dégager du jus et ça va cuire mon riz. Okay. Voilà, donc et de temps en temps je vérifierai pour remouiller s'il faut. Donc je remouille avec de l'eau par-dessus. Alors vous faites attention, prenez de l'eau un petit peu chaude, parce que si vous mettez de l'eau froide et votre plat ne va pas supporter, ça fait un choc thermique et ça risque de péter le plat. Moi je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé et je me suis retrouvée avec mes tomates farcies dans mon four. Voilà, donc ça c'est une astuce que vous pouvez faire, ça vous évite en fin de compte de cuire le riz à part, mais bien évidemment vous pouvez faire votre riz à part sans aucun problème. Voilà, donc vous surveillez bien la cuisson des tomates, parce que quand elles sont grosses ou qu'elles soient petites, ça cuit une heure. Donc quand c'est gros, tout va bien parce que ça ne va pas trop cramer. Mais par contre, les petites, ça risque de trop cuire. Donc, il faudra peut-être baisser. Donc, n'oubliez pas qu'on cherche à cuire la farce qui est à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, si vous mettez des petites, ben, ça sera moins. Ça sera plutôt trois quarts d'heure, une heure. Si c'est des gros, ça sera vraiment une heure. Voilà. Et puis, ben, vous voyez, vous vous dépêchez de faire des tomates farcies parce que c'est la fin de la saison. Alors, les tomates que vous allez trouver sur les marchés, c'est des tomates de serre. Donc, moi, j'en ai encore dans le jardin. D'ailleurs, je vais faire ma dernière récolte cette semaine. Voilà, donc il faut vraiment profiter parce que là, on est dans la bonne période pour faire les tomates farcies. Nathalie, peut-être que tu as quelque chose sur, justement, nos tomates farcies.
Oui, les tomates farcies, c'est une spécialité culinaire traditionnelle des cuisines du bassin méditerranéen français. Ce plat est composé de riz, de farce à la viande, de tomates et d'herbes fraîches. Mais il est également possible de remplacer la farce à la viande par une aux légumes ou aux herbes. Ce plat est un dérivé des tomates à la provençale et fait partie d'une des recettes se trouvant dans les farcis, composés eux de plusieurs autres petits légumes en plus des tomates. Les tomates arrivent à Paris en 1790. Pour autant, elles n'ont pas bonne presse lors de leur arrivée en Europe et en France. Cette recette de tomates farcies est généralement préparée avec des choses que les personnes ont sous la main. Par conséquent, elles utilisent des restes et c'est alors devenu un plat populaire. Le plat est popularisé par plusieurs chefs et écrivains français comme Alexandre Balthazar, Laurent Grimaud de La Reynière, si je ne dis pas tout son nom, en 1803 dans son livre « Almanach ». J'ai jamais su si on dit almanach ou almanache. Que c'est almanach. Des gourmands. Paul Bocuse a aussi mis en avant ce plat en 1976 dans son livre La cuisine du marché. Puis plus tard, Philippe, le fameux Philippe Etchebest, et d'autres cuisiniers français.
Eh bien, merci. Alors, allez, je vous donne une petite autre astuce. On a parlé de la chair à saucisse, 500 grammes. Vous pouvez enlever la moitié et rajouter du steak haché.
D'accord.
Voilà, donc c'est moins gras. Alors, c'est moins gras et ça sera moins sec aussi. Voilà, donc vous pouvez faire moite-moite. Si vous aimez quelque chose de moelleux, vous pourrez ajouter aussi une tranche de pain de mie trempée dans du lait. Voilà, c'est d'autres recettes plus aussi savoureuses. Moi, c'est comme ça que je la fais et c'est la plus simple. Voilà, donc écoutez, il y a encore une belle recette tranquille, facile à faire.
Facile,
hein.
Ouais. Bon, c'est un plat familial.
Voilà, et c'est un plat familial.
Ouais.
Et qui est rapide à faire et que vous pouvez faire avec les enfants, au moins ça les occupera à évider les tomates. Voilà, écoutez, je vous propose qu'avant de passer au dessert, on se retrouve avec la pause musicale. À tout de suite.
Juste pour voir qu'on donne à la vie des pourboires, pour qu'elle nous serve un peu d'espoir. Viens, on perd la tête ce soir, on la garde pas sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part, avec vue sur une vie plus drôle. On pourrait donner tort à la mélancolie, on pourrait donner raison à nos douces folies. Ta peau et ma peau, c'est déjà l'harmonie. J'aime autant ton âme que ton anatomie. Viens, on perd la tête ce soir. On met des soleils dans nos yeux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est illusoire. Viens, on perd la tête ce soir. Ce soir, on vit la vie au mieux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est illusoire.
déjà l'harmonie. J'aime autant ton âme que ton anatomie. Viens, on perd la tête ce soir, viens, on s'entête ce soir. Viens, on ferme les yeux, viens, on ferme les yeux juste pour voir.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici pour poursuivre notre émission par le dessert, la panna cotta pour ce soir. Pour cela, il vous faudra 15 centilitres de lait, 45 grammes de sucre, une cuillère et demie une cuillère et demie à café d'extrait de vanille ou un sachet de sucre vanillé. Vous aurez besoin de 4 à 5 feuilles de gélatine alimentaire, 45 centilitres de crème fraîche liquide. Alors, à 30%, hein, c'est important parce qu'on ne fait pas de l'allégé chez moi, en attendant. Et puis, ça n'a pas la même onctuosité non plus. Pour le matériel, il vous faudra donc un saladier, une cuillère en bois, une casserole et 6 ramequins, et puis un fouet. Pour la préparation, vous aurez besoin, attention, 10 minutes et en cuisson, vous aurez 5 minutes à peine. Vous allez comprendre pourquoi. Pour commencer, on va faire fondre dans un saladier avec de l'eau froide pendant 10 minutes. Vous allez faire fondre les feuilles de gélatine. Donc vous mettez dans un saladier de l'eau froide, très froide, et pendant 10 minutes vos feuilles dedans. Vos feuilles de gélatine. Et puis, dans une casserole, vous allez mettre la crème, le lait, le sucre et la vanille, donc, ou le sucre vanillé ou l'extrait de vanille. Et vous allez bien mélanger tout ça et vous allez laisser bouillir la préparation. Et au premier bouillon, d'accord, donc dès que ça bulle un peu, vous allez éteindre votre feu. Et vous allez incorporer la gélatine. Alors, avant de l'incorporer, vous allez la sortir de l'eau et vous allez l'essorer dans vos mains. Hein, ça c'est. Et puis, vous la mettez dans la préparation qui est chaude. Et avec votre fouet, vous allez fouetter pour faire fondre la gélatine. Et une fois que la gélatine est fondue, vous avez bien mélangé avec le fouet, et ben vous allez le verser dans les ramequins. Voilà. C'est tout simple, c'est pas sorcier à faire. Par contre, vous mettez bien au frais et faut au moins attendre 4 heures pour que la gélatine gélifie tout cet appareil.
Est-ce que le lait, on peut mettre du lait demi-écrémé ou faut mettre du lait entier ?
Non, tu mets du demi-écrémé, il n'y a pas de souci. Ça ne changera rien à la recette. La seule chose, c'est que ça sera plus gras si tu mets du lait entier.
Oui, mais ça se tiendra pareil.
Alors, vous pouvez aussi mettre. Vous pouvez remplacer le lait par que de la crème fraîche. Ça, c'est vous qui voyez.
Là, ça doit être un peu lourd quand même.
Eh bien, non, c'est vachement. Enfin, c'est pas lourd, puisqu'on a les gélatines quand même, hein, faut pas oublier, c'est plus onctueux, voilà. Mais après, c'est vous qui voyez, hein. Donc c'est surtout les hanches.
Oui, c'est ça.
C'est surtout les hanches qui voient. Alors, moi, je vous propose de servir ça parce que c'est blanc, hein, la panna cotta. Oui. Donc, pour donner un peu de peps à cette panna cotta, au moment de servir, vous pouvez la servir avec un couli de fruits rouges ou de la confiture au caramel au beurre salé ou encore du chocolat fondu au chaud. Voilà. Ou alors les deux et vous faites un joli décor. Enfin bon, c'est vous qui voyez. Alors, vous allez me dire, oui, mais en fin d'émission, vous allez me dire, ouais, mais on se souvient pas, les coulis, comment on fait, la confiture, comment on l'a fait, puisqu'on l'avait vu que dans les toutes premières émissions. Eh ben, en fin d'émission, bonne nouvelle, je vous donne les bonus si on a le temps. Mais je pense qu'on aura largement le temps. En attendant, Nathalie, tu as certainement des infos sur cette panna cotta.
Oui, parce que... Est-ce que vous savez comment, ce que veut dire panna cotta ? Ça signifie en français crème cuite. C'est un dessert traditionnel de la cuisine italienne, originaire du Piémont, mais populaire dans toute l'Italie, à base de crème, de lait, de sucre et, comme tu l'as dit, de gélatine. L'appellation italienne panna cotta signifie littéralement panna crème et cotta cuite. C'est tout bête, hein ? c'est pas compliqué l'italien. Les plus anciennes origines connues de la panna cotta seraient les langues, au sud-est de Turin, où une femme d'origine hongroise aurait élaboré ce dessert avec un excédent de lait au début du 19e siècle. Cependant, le mot italien panna n'existe pas dans le dialecte piémontais, qui préfère fior de lait, fleur de lait, pour désigner la crème. Le terme panna cotta n'est probablement pas apparu avant les années 1900. Et Tore Sonfia, chef étoilé d'Aitre... Citroni, à Coni, voilà, a sans doute été le premier à en codifier la recette et à inscrire son nom sur la carte d'un restaurant gastronomique au milieu des années 1960. La panna cotta serait une descendante plus ou moins éloignée du latismel. On retrouve la trace d'une recette ressemblant étrangement à la panna cotta actuelle dans une lettre que le poète Giacomo Leopardi écrivit à son père en 1827 lors de son séjour à Bologne. La recette du latte et mel est très simple car elle se compose de fiori di latte, donc la fleur de lait, et de crème, de gelée culinaire non salée et de sucre. Elle pourrait aussi venir de la recette du fromage bavarois de Marie-Antoinette Carême. En effet, cette recette que l'on trouve dans le pâtissier royal parisien est la même que celle de la panna cotta moderne, à la différence qu'une partie de la crème est montée en chantilly avant l'ajout de la gélatine. La crème, très prisée en Italie du Nord, était historiquement consommée nature ou sucrée avec des fruits ou des noisettes. Les recettes originelles font apparaître l'emploi de gélatine extraite d'un bouillon d'arête de poisson. Le sucre, produit exotique d'importation coûteux, n'était alors pas accessible aux classes populaires. Et la vanille est utilisée à partir des années 1970.
Ben vous voyez, hein, donc cette histoire de panna cotta, hongroise, italienne, bavarois. Ouais. Enfin bon, on voyage dans cette émission. Merci Nat. Écoutez, je pense qu'avant de vous donner les bonus, allez, on s'écoute juste une petite musique et on se retrouve pour les bonus. À tout de suite. Toxic.
20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, nous revoici. Notre émission tire pratiquement à la fin, mais je, comme chose promise, chose due, je vais vous donner les deux bonus. Donc le premier, voire peut-être trois, si vous êtes sage. Alors, donc, dans le premier temps, on va faire le coulis de fruits rouges. Alors, vous allez me dire, oui, les fruits rouges, on les trouve plus. Bah non, on les trouve plus. Donc, du coup, j'ai moins pris des fruits surgelés. Donc, on a besoin, donc, pour le coulis, 200 grammes de fraises surgelées, 5 centilitres d'eau, 50 g de sucre et 200 g de cerises surgelées. Alors, vous pouvez prendre 400 g de fruits rouges, c'est tout aussi bien. Voilà. On va verser les fruits dans la casserole, donc les fruits surgelés. Et puis, on va ajouter donc les 5 centilitres d'eau et les 50 g de sucre. Et on va faire cuire à feu très doux pendant 15 minutes. Donc, faut vraiment que ça soit vraiment à feu doux, tranquillement. Bon, si ça bouillonne un petit peu, c'est normal, hein. Et puis, quand ces 15 minutes sont passées, vous allez mixer l'ensemble. Et puis, vous allez filtrer. Donc, moi, je filtre dans un chinois et je sers frais ou tiède sur la panna cotta.
Voilà. Dessus.
Dessus. Donc, vous allez voir, la panna cotta, elle va se durcir et vous allez pouvoir mettre comme un nappage votre coulis. Donc, le deuxième bonus, c'est la confiture de caramel au beurre salé. Alors, pour cela, on va avoir besoin de 50 g de sucre, 150 g de sucre, 150 g de crème fraîche, 10 g de beurre.
100 g.
100 g de beurre demi-sel. Donc, vous voyez, c'est un peu gras. Alors, je vais revenir sur le coulis parce que il va vous en rester, hein, puisqu'on a quand même 5 centilitres d'eau, mais ça va vous faire à peu près 500 grammes de coulis. Et sur la panna cotta, c'est pas un centimètre, c'est vraiment un fond. Ouais. Donc, si vous en reste, vous le mettez dans un bac à glaçons et vous le mettez au congèle. Comme ça a déjà cuit, vous allez me dire, ouais, mais les fruits surgelés, machin et tout ça. Mais comme les fruits ont déjà
cuit. Ça ne pose pas de problème.
Vous les mettez dans un bac à glaçons. Une fois que ces glaçons sont pris, vous les enlevez du bac à glaçons, vous les mettez dans un sac et vous remettez au congèle. Et comme ça, vous avez toujours votre coulis qui est prêt.
Oui, puis en plus en petite
quantité.
Et ouais, voilà. C'est pratique ça.
Voilà, c'est juste une astuce. Je suis revenue en arrière, mais voilà. Donc, je reviens sur ma confiture de caramel au beurre salé. Donc, on va faire fondre les 150 grammes de sucre à sec. Donc, vous mettez ça dans une poêle ou dans une casserole à fond qui ne colle pas, hein, de façon à ce que, parce que ça va faire du caramel. Donc, on va faire ça à sec sans en rajouter d'eau dessus. Et on va faire ça à feu moyen. On ne quitte pas les yeux sous peine de rater votre caramel. Hein, donc ça, on remue de temps en temps de façon à ce que le sucre soit vraiment commence à caraméliser, à brunir, ce qu'on appelle brunir. Votre caramel va brunir, il va devenir un brun clair. Je vous rappelle que c'est du sucre blanc qu'on a pris. Si c'est de la cassonade que vous pouvez prendre, vous pouvez prendre aussi de la cassonade. Vous ferez attention, ça va aller beaucoup plus vite puisqu'elle est déjà brune. Donc du sucre, il brunit. Vous surveillez bien. Une fois que ça devient un brun clair, vous ajoutez la crème fraîche. Donc en remuant assez rapidement. Donc vous pouvez prendre un fouet et vous portez à ébullition. Et au premier bouillon, vous éteignez et vous allez mélanger, ajouter le beurre demi-sel. en petits dés. Et puis, vous allez faire recuire vraiment à feu très doux. Donc, cette chose-là est importante. Vous éteignez votre gaz dans un premier temps. Vous incorporez le beurre en petits dés. Et après, une fois que tout est incorporé correctement, vous faites recuire quelques minutes, hein, vraiment pas sans faire trop bouillir. Et puis après, vous retirez votre casserole du feu et vous les mettez dans les petits pots à conserve. Donc bien chaud, vous le mettez dans le pot et vous le fermez avec le couvercle et vous retournez le pot. Et là, du fait que la chaleur va être prise dans le pot, vous allez pouvoir conserver au frigo pendant une à deux semaines. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez le mettre sur la panna cotta. Et puis, vous pouvez faire comme un arlequin, c'est-à-dire moitié coulis, moitié caramel, et puis vous mélangez avec une pointe de couteau. Enfin, vous éclatez. C'est l'important de la cuisine, c'est de s'éclater et de faire des choses jolies à l'œil. Et puis, je vous ai parlé un peu plus haut d'un chocolat chaud. Comme il nous reste du temps, bah c'est parfait. Là, vous allez, j'ai repris ma recette. On a besoin de 200 grammes de chocolat à croquer à dessert. Vous mettez en petits carrés, vous les coupez en petits carrés, et vous allez rajouter. Alors ça, moi, je vous le fais au pifomètre et de tête. Vous allez rajouter 2 grosses cuillères à soupe dans une casserole. Tout ça, vous le mettez dans une casserole. Vous mélangez bien et vous allez, à feu très doux, vous allez faire fondre l'ensemble.
Pardon, c'était 2 grosses cuillères de quoi ?
De crème fraîche.
Ah, de crème fraîche.
Ah, excuse-moi. Mmh. On travaille, la cuisine est généreuse chez moi.
Oui, donc, oui,
la crème fraîche est souvent présente dans ma cuisine. voilà, j'en utilise. Après, c'est que du plus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout manger ce chocolat chaud d'un seul coup. Il faut en mettre. On va mettre une cuillère à soupe sur chaque panna cotta. C'est vraiment très léger. Il faut que ça soit un petit nappage. Ça ne soit pas un centimètre d'épaisseur. C'est pas le but. Donc moi, on appelle ça aussi en pâtisserie le chocolat et la crème fraîche de la ganache.
C'est ce qu'on trouve dans les chocolats voilà, de tout Noël,
à fait.
En fait.
Tout à fait.
C'est ça.
Tout à fait. Donc vous allez en fin de compte le mélanger. Mélanger le chocolat et faire fondre le chocolat et la crème fraîche épaisse. Alors si vous n'avez pas de la crème fraîche épaisse, vous prenez la crème fraîche liquide, c'est pareil, c'est exactement pareil. Vous mélangez bien et une fois que le premier bouillon, vous arrêtez et votre chocolat il est fait.
Donc pas de sucre. Chocolat,
ouais,
crème fraîche,
ouais.
C'est tout.
Alors vous avez, tout dépend du chocolat que vous utilisez, mais il faut savoir que le chocolat à Nestlé ou à croquer ou machin, il y a déjà du sucre dedans.
Donc mais là, c'est pas du pâtissier, c'était pas du chocolat pâtissier.
Si pâtissier, il y a du sucre,
oui,
dedans.
Y
vous
en
regardez,
il y a
du sucre. Voilà, moi je rajoute pas de sucre dedans. Et là, j'utilise ce chocolat parce que vous pouvez le mettre une fois c'est chaud. La même chose hein, que la confiture de crème, la confiture de caramel. Vous le mettez une fois que c'est chaud dans vos bocaux à conserve. Vous fermez le couvercle. C'est chaud. Vous retournez votre conserve et puis vous attendez que ça refroidisse. Ça va durcir. Donc, si vous voulez le réutiliser, c'est à la cuillère ou au couteau et le faire refondre pour faire du chocolat chaud. Voilà, tout simplement.
D'accord. Sinon, ça a quelle consistance ? C'est pas dur ? On peut peut-être...
Ça sera quand même un peu dur parce que le chocolat va rebloquer.
Malgré la crème fraîche ?
Ouais.
Je pensais que ça serait comme une pâte à tartiner un peu qu'on pourrait mettre sur du pain.
Non, tout à fait. On peut faire ça.
Ça a cette consistance-là ?
Tu peux faire ça. Et tu peux aussi, quand elle est un peu plus dure, la rouler et faire des truffes.
Ah oui.
Voilà.
Oui, oui.
Donc, ça, je vous redonnerai la recette. On va arriver au moment de Noël.
Ouais.
Donc, ça sera prévu, cette recette. Mais moi, je l'utilise, le chocolat chaud. C'est le truc rapide sur une glace vanille, du chocolat chaud. Enfin, c'est le truc plus simple. Ça, c'est comme les sauces sur les plats principaux. Voilà. La crème fraîche, c'est un ingrédient qu'on utilise très rapidement, très vite et qu'on a toujours dans le frigo. Voilà. Donc, ben voyez, on arrive à notre fin d'émission avec trois bonus dont je vous les rappelle. Le coulis de fruits rouges ou de fraises ou de ce que vous avez envie de faire. La confiture de beurre salé, de caramel de beurre salé que vous allez pouvoir mettre sur vos tartines aussi. Et puis le chocolat chaud qu'on pourra mettre sur les tartines, sur de la glace, sur ce qu'on veut, ce que vous avez envie. Ça peut vous servir au goûter, ça peut vous servir au petit déjeuner.
Sur une pomme au four, par exemple.
Sur une pomme au four, tout à fait.
Une poire,
ouais. Tout à fait, une pomme. Alors, tout à fait. Alors là, on est.
Poire chocolat. Ça va très très bien, non ?
Ah mais poire, caramel et chocolat, ouais. Ça te fait une couleur et une senteur et gustativement, ça claque en bouche quoi. T'as l'acidité des fruits rouges, t'as l'onctuosité du caramel et le pincement derrière du chocolat. Voilà, moi j'ai les papilles qui fricotent.
J'ai une petite question.
Dis-moi.
Si on n'a pas de crème fraîche mais qu'on a du mascarpone, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'on peut
J'ai jamais essayé. Franchement, j'ai même jamais essayé.
Le goût
essayé.
N'est pas le même, mais il y a le gras qu'il faut,
oui,
non ?
Je
crois même que c'est un peu plus léger une mascarpone que la crème.
Je suis pas sûre. Là, je suis pas certaine. Faudrait regarder au niveau de la teneur du gras, mais je suis pas certaine. Mais par contre, on peut faire essayer. Bah, écoute, je peux te dire ça la semaine prochaine, je vais essayer.
D'accord.
Je vais essayer. Tant qu'à faire en direct, on essaiera. Moi, cette semaine, j'ai du mascarpone, j'ai du chocolat. Comme il faut que je fasse pour ma table d'hôte un dessert. Voilà, bah, je vais essayer. Je verrai bien. Je verrai bien ce que ça donne. Mais au niveau goût, on testera. Tiens, bah, je vais faire ça lundi et puis on testera les deux.
D'accord.
Comme ça, je vous ramènerai, puis on testera en direct.
Ah, c'est bien testé.
Faut que je note ça. Si je dis qu'on teste en direct et que je le ramène pas, mon Dieu, je vais me faire tirer les oreilles. Bon, bah écoutez, voilà. Moi, je vous ai donné plein de choses. Très facile, rapide. Encore une fois, ça sert à rien de se prendre la tête. Vous avez plein de recettes qui sont faciles à réaliser, que vous pouvez faire en famille, que vous pouvez faire avec vos enfants. Profitez de préparer la cuisine ensemble. On a perdu cette notion et cette joie de cuisiner ensemble. Arrêtez la malbouffe, c'est mon coup de gueule de ce soir. Voilà, il me reste à vous dire de vous souhaiter un excellent appétit, une très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine en dégustation avec les mêmes à la même heure et le même jour. En attendant, vous prenez bien soin de vous et on vous embrasse. Belle soirée.
Bonsoir.